au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Donc nous voudrions aujourd'hui aborder la question des relations entre la philosophie et la théologie et l'histoire de ces relations. La théologie semble avoir, d'une façon ou d'une autre, dominé la philosophie pendant longtemps. Puis, avec la modernité, la philosophie s'est, d'une certaine façon, émancipée de cette théologie, libérée de cette tutelle. Au point qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait effectivement un oubli, peut-être réciproque, peut-être uniquement de la philosophie à l'égard de la théologie. Donc, différentes questions se posent au regard de ce thème. Première question, la philosophie a-t-elle raison de se séparer de la théologie? Qu'avons-nous, nous tous, à apprendre de la théologie et qu'est-ce que la théologie peut nous dire aujourd'hui? Peut-il y avoir des fécondations réciproques entre la philosophie et la théologie? Alors, disons pour faire simple que la théologie pense Dieu, pense à partir de Dieu, pense ce que nous pouvons dire de Dieu, alors que la philosophie s'appuie essentiellement sur la raison pour penser le monde, pour penser l'homme, pour penser l'univers dans lequel nous vivons. Si donc il y a séparation, il y a rejet, il y a une forme d'ignorance historique de l'inspiration profonde de la théologie ou de la religion à l'égard de la philosophie. Or, nous dit Philippe Capel, notre invité d'aujourd'hui, il y aurait une nouvelle donne, hein, et je vous cite, « l'oubli est en passe d'être levé, la théologie chrétienne se trouve de plus en plus sollicitée sur la base de ses objets propres. » Donc, Philippe Capel-Dumont, merci beaucoup de venir nous voir.
Merci de m'avoir invité.
Donc, vous êtes docteur en philosophie, docteur en théologie, vous êtes doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, vous êtes professeur d'université à l'Université de Strasbourg, et vous avez beaucoup d'ouvrages dont nous allons parler et qui tournent tous, me semble-t-il, autour de cette question de l'articulation entre la foi et la raison, entre la théologie et la philosophie. Alors, de vos ouvrages, j'en ai retenu un certain nombre. Le premier, donc, « Dieu existe-t-il encore ?», qui est un petit livre d'entretien que vous avez eu en 2004 avec André Comte-Sponville. De façon plus sérieuse, plus universitaire, aux éditions du CERF en 1998, « Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger ». Et puis en 2005, donc, ce livre auquel nous ferons référence, « Finitude et mystère », qui essaye effectivement d'aborder cette question-là. Et puis, alors surtout, qui est le cœur de notre entretien d'aujourd'hui, vous êtes le maître d'œuvre enfin, d'une grande entreprise en 4 volumes, donc qui est une anthologie de philosophie et de théologie. Quand je dis 4 volumes, ça veut dire 140 notices, ça veut dire 90 spécialistes mobilisés, ça veut dire 10 ans de travail qui s'achèvent maintenant et 2 volumes parus aujourd'hui. Donc le premier volume, Philosophie et théologie dans la période antique, qui est le premier volume dirigé par Jérôme Alexandre, donc qui va, pour faire vite, de Platon jusqu'à Jean Damascène, du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ. Deuxième volume, Philosophie et théologie au Moyen-Âge, qui est dirigé par Olivier Boulnois, et qui, lui, donc, va du 8e siècle jusqu'au 15e, et puis 2 autres prévus pour l'année prochaine et bientôt, donc volume 3 de Luther à Nietzsche et volume 4 de Husserl jusqu'à aujourd'hui. Et le 4e volume, lui, fera, m'avez-vous dit, 800 pages, alors que les autres en font déjà tous 400. Alors, le grand avantage de ce travail, c'est d'une part de faire un peu une synthèse de tout ce que vous avez fait, mais surtout, pour nous, pour un public éclairé, pour des élèves, pour des étudiants, pour des professeurs, de donner accès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui glosent autour de ces sujets-là, mais de donner accès à une quantité absolument impressionnante de textes qui essayent de nouer ensemble théologie et philosophie. Et donc tous ces textes-là qu'on ne connaît pas, que certains spécialistes connaissent, sont là, à portée de main, avec à chaque fois une introduction des spécialistes sur les différents auteurs. Alors pour essayer de nous introduire dans ce sujet, je voudrais qu'on aborde dans cet entretien 2 choses. La première, qui constituerait la première partie de notre entretien, qui est de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Vous dites oubli, vous dites crispation, vous dites séparation. Pourquoi? N'y a-t-il pas d'une façon ou d'une autre une responsabilité sans doute pour partie partagée? Et puis, deuxième grand moment de notre entretien, essayer d'aborder donc ces deux moments, puis on verra peut-être dans un deuxième entretien plus tard, la période plus moderne, enfin à partir donc de Luther. Donc, essayer d'aborder historiquement comment les choses se sont d'une façon ou d'une autre nouées. Alors, première question donc, considérez-vous qu'il y a un blocage? Si blocage il y a entre théologie et philosophie, d'où, selon vous, vient-il? Il faut d'abord, semble-t-il, partir du constat avant que de voir soit des évolutions possibles, si évolution il y a, soit de faire effectivement des références historiques à l'histoire de la théologie et de la philosophie. Donc quel est le constat aujourd'hui de ces relations distendues, oublieuses, entre philosophie et théologie?
Merci d'abord de m'avoir invité et merci d'avoir si bien entendu et si bien exposé le travail auquel je me suis attelé depuis 10 ans avec près d'une centaine de collaborateurs. La relation entre la philosophie et la théologie, c'est un héritage à la fois contrasté, de mille couleurs et en même temps qui a été d'une certaine manière à la fois prégnant, qui fait partie de notre histoire et qui n'a pas été comme tel entendu. De fait, lorsqu'on lit par exemple la magistrale histoire de la philosophie de Breyer, on est très frappé de voir que, par exemple, pour la période moderne qui couvre 3 volumes, cette grande histoire de la philosophie de Breyer qui a formé tant de générations d'étudiants et de professeurs, la relation comme telle ne fait pas partie des objets structurants de l'histoire, n'est pas considérée comme objet structurant de la pensée occidentale. On a bien des références à la théologie, mais en tant que relation structurante, elle n'est pas prise en compte. Or, il n'est pas possible d'accéder à l'intelligibilité de l'histoire occidentale, qu'elle soit d'ailleurs politique, artistique, culturelle, et philosophique et théologique, si on ne prend pas en vue cette relation comme telle, en tant que telle, n'est-ce pas? Alors, nous en sommes aujourd'hui à une situation assez paradoxale. La théologie comme telle, et vous l'avez très bien tout à l'heure expliqué son objet, au fond, la théologie, c'est le discours systématique de la foi, prenant en vue essentiellement l'objet Dieu, mais de la foi en Dieu, face à une philosophie qui se définit, au moins depuis le moment moderne, comme le champ d'expression, d'investigation de la raison. Cette relation a été comme telle oubliée, mais la théologie paradoxalement revient sous un mode assez inattendu, notamment dans des secteurs comme la philosophie analytique, comme la phénoménologie. En effet, la théologie étant l'interprétation, l'auto-interprétation des objets religieux, elle fait partie de la culture, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les objets dont elle traite font partie de la culture. Et il n'y a pas si longtemps, les objets religieux étaient considérés comme hors culture. Je me souviens d'avoir eu un débat avec celui dont vous disiez le nom tout à l'heure. Notre culture, notre formation universitaire, si vous voulez, républicaine, laisse aisément entendre que les objets religieux sont hors monde. Or, il n'y a rien de plus mondain qu'un objet religieux. Le Coran, la Bible sont des objets mondains du monde. Comment les traiter philosophiquement? Donc comment entrer en rapport avec des disciplines telles la théologie qui ont une grande tradition d'interprétation de ces objets religieux? C'est le grand problème de la relation entre la philosophie et la théologie, c'est que nous héritons d'un paradigme qui considère que seule la raison philosophique a accès à l'universel et la théologie est régionale, privée, locale, travaillant sur des objets optionnels. Or, il est vrai qu'en Allemagne, sous l'impulsion de Hegel, en France, Voltaire, est née la philosophie de la religion, c'est-à-dire la prise en vue philosophique de la religion. En France, nous ne connaissons pas très bien cette tradition, en dépit des demandes de grandes personnalités philosophiques comme Blondel, par exemple, qui prêchait dans le désert, en quelque sorte. Qu'est-ce que prendre en vue philosophiquement les objets religieux? En tout cas, il y a une pertinence de la chose. Or, nous ne sommes pas habitués, véritablement en France, à prendre en vue philosophiquement des objets religieux, alors que la théologie elle-même, au moins la chrétienne, est habituée à prendre en vue des objets philosophiques. Donc, il y a une sorte de déséquilibre qui s'est installé dans l'histoire. La théologie n'a pas ménagé sa peine pour laisser un espace à la philosophie. On peut toujours discuter des modalités de ce rapport à la philosophie. Néanmoins, il faut admettre, reconnaître, c'est un fait d'histoire, que la théologie a toujours, y compris d'ailleurs dans ses relais institutionnels, a toujours laissé la place à l'enseignement de la philosophie, à la culture philosophique. En revanche, il y a bien peu d'espace, les choses changent, hein. Il y a un peu d'espace dans l'université, en tout cas française, du début du XXe siècle, pour la prise en compte des objets religieux. Il y a eu quand même, ne soyons pas trop sévères pour notre université française, il y a toujours eu des espaces, je pense aux chaires de philosophie musulmane à la Sorbonne, il y a l'école pratique des hautes études qui a toujours laissé un espace aussi à l'histoire du christianisme, mais pas nécessairement à la théologie comme telle, c'est-à-dire en tant que discours aussi en raison. Et voilà le problème. C'est-à-dire que la théologie n'est pas considérée dans la culture comme un discours rationnel. Elle est considérée comme un discours plutôt du côté de l'irrationnel. Là, nous avons un retard d'un siècle même par rapport à la philosophie allemande qui, elle, avait bien compris que la théologie n'était pas du côté de l'irrationnel. C'est un travail en raison. Or, la philosophie, dans notre espace, dans nos paradigmes, dans nos paléocéphales universitaires françaises, la philosophie est considérée comme ayant, elle, le travail de rationalité, le monopole de la raison. Or, nous sommes en train de vivre une autre époque, c'est la diffraction des rationalités. La philosophie ne peut plus prétendre avoir le monopole de la raison. Il y a de la rationalité de science, la philosophie en a fait l'expérience, mais il y a aussi la rationalité esthétique et la rationalité théologique. Ainsi, nous nous trouvons aujourd'hui dans un espace qui prend en vue la diversité des rationalités. Alors, comment ce constat, si vous voulez, peut être fait sur la base de plusieurs raisons? Je me résume, si vous voulez, d'un mot en disant... Nous avons devant nous des raisons qui sont des raisons d'épistémologie. D'un mot, l'herméneutique de la religion a été le champ exclusif de la philosophie quand elle a eu lieu, ou alors les objets ont été exclus du champ de l'observation. Des raisons politiques aussi. Vous savez que les pères de la République, les Fernand Buisson et autres, ont été formés dans l'esprit des Lumières. Et donc, dans l'esprit selon lequel la raison philosophique a accès à l'universel doit produire l'université de la morale, l'université du droit. En revanche, la théologie ayant elle-même été connotée par les guerres de religion, la possibilité de tenir ensemble les foies diversifiées doivent être exclues du champ de l'enseignement. D'ailleurs, des formules très violentes à la fin du XIXe siècle ont été commises à l'endroit de la théologie, à l'endroit des religions, qu'aujourd'hui plus personne d'ailleurs n'oserait s'approprier, y compris dans le camp le plus laïciste qui soit, où véritablement la religion était du côté de l'obscur et la philosophie seule du côté des Lumières. Nous étions aussi dans l'exacerbation totale du conflit politique qui a donné lieu, comme vous le savez, à la séparation de l'Église et l'État en 1904-1905, même si après, comme vous le savez, notre pays a en quelque sorte compensé cette séparation par des conventions, par des accords qui malgré tout réhabilitaient sous des formes toujours des collaborations entre les différents champs. Et puis des raisons culturelles. La modernité en effet a vécu sous un double mode, c'est-à-dire l'autoréférence du sujet et le progrès immanent à l'histoire. Or ces deux données constituant d'une modernité complexe d'ailleurs, ces deux références ont été mises à mal dès la fin du XIXe siècle avec Nietzsche et puis la Première Guerre mondiale pour le progrès. Et d'une certaine manière, ces deux grands dogmes de la modernité sont tombés d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus en modernité. On emploie souvent un concept d'ailleurs totalement flou qui est celui de postmodernité. Pour ma part, je suis assez d'accord avec Wolfgang Welsch en Allemagne qui considère que la postmodernité, si elle doit être dite plutôt sous la métaphore spatiale, c'est-à-dire la fragmentation des opinions, la fragmentation des récits, la fragmentation des discours, la fragmentation des mémoires. Et donc la métaphore spatiale s'est substituée à la métaphore historique, le paradigme moderne qui était historique. Et du même coup, alors, et je réponds, je crois, par ce biais à votre question, les objets religieux retrouvent un statut dans la fragmentation. Il est possible de parler des objets religieux comme il est possible de parler de tout autre objet dans la mesure où cela fait partie du paysage. Mais on ne demande surtout pas à ces objets religieux de redevenir voraces et conquérants, mais d'occuper leur place, rien que leur place. Et c'est par ce biais de modestie, en quelque sorte, que la théologie revient, et elle revient, dans, encore une fois, dans des sciences philosophiques très puissantes. Je pense notamment au mouvement philosophique le plus important du XXe siècle, à tout le moins dans le monde continental, à savoir la phénoménologie. Les phénomènes religieux sont considérés comme des phénomènes de plein droit, donnant du sens, étant l'objet de visées et étant du même coup l'objet d'une prise en vue qui appelle des méthodes propres. Alors je crois que de ce point de vue, une nouvelle donne opère. Pourtant, si vous permettez un mot de conclusion sur cette question tout à fait importante, il n'est pas sûr que cette nouvelle donne soit une forme d'accomplissement pour autant de la prise en vue philosophique de la théologie, parce qu'il n'est pas encore sûr que la philosophie ou les philosophes aient tous bien entendu ce qu'est la théologie, n'est-ce pas, dans son principe d'élaboration interne. Il ne suffit pas simplement d'avoir prononcé le mot théologie ou même d'avoir fait quelques études de religion pour savoir ce qu'il en est de la théologie. La théologie a sa logique propre, je parle de la chrétienne, qui est réflexive, qui est rationnelle, qui prend en vue des objets, qui régule, qui a ses instances de régulation scientifique, qui est un vrai objet universitaire que la théologie. Hein. Donc il n'est pas sûr que... Mais enfin, nous sommes en marche, en quelque sorte, quelque chose se passe. Pour ma part, je dirais que cette nouvelle donne a lieu, mais elle, en même temps, elle donne lieu aussi à une forme d'inquiétude au sens augustinien. Nous ne savons pas encore tout ce que cette chose donnera. Je crois aussi que actuellement, la mondialisation du phénomène religieux rend incontournable la prise en vue du phénomène religieux. Et la montée de l'affirmation de sa identité religieuse rend inévitable aussi le retour vers notre propre mémoire. Et d'une certaine manière, nous sommes aussi par ce biais confrontés à ce que j'appelle cette nouvelle donne.
Alors, vous dites donc clairement effectivement qu'il y a une double rupture, c'est-à-dire à la fois une séparation entre la philosophie et la théologie qui a existé, qui s'est imposée, et puis une culture, ce que vous appelez une culture amputée, c'est-à-dire la considération que, et c'est effectivement votre débat avec Comte-Sponville, que la théologie n'est pas dans la culture, c'est ce que dit Comte-Sponville, et vous dites le contraire. Alors ma question, pour voir de l'autre côté des choses, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un effet salutaire de la modernité qui, eu égard, et comme le met bien en évidence Pierre Manent, a été traumatisée par ces guerres de religion qui ont absolument ensanglanté l'Europe, a fondé une nouvelle philosophie et une nouvelle philosophie politique dans le principe de la séparation. Et est-ce que, donc, il n'y a pas, du côté de la modernité, quelque chose de salutaire, peut-être trop salutaire, humain trop humain, salutaire trop salutaire, dans, effectivement, cet effet de séparation, de mettre la théologie un peu à l'écart pour éviter cette prétention qui a existé d'hégémonie, de mainmise à la fois sur le politique et à la fois sur la philosophie. Donc, pour le dire autrement, quelle est la responsabilité de la théologie ou de la religion chrétienne dans ce que vous constatez? Et puis, deuxième question sous-jacente, c'est, vous avez parlé de modestie de la théologie. Bon, est-ce que cette modestie n'a pas été un travail en soi de la théologie et de la religion, eu égard à ce qu'elle était préalablement?
Vous posez une question absolument fondamentale. Avant d'y répondre, je reviens simplement d'un mot sur Comte-Sponville. Il est vrai que ce n'est pas la théologie qu'il voulait congédier, plutôt considérer que les objets religieux étaient hors de la culture. Mais enfin, Comte-Sponville est tout à fait heureux, je crois, l'avoir compris, qu'une anthologie comme celle-là paraisse. Néanmoins, enfin, il fait partie de ceux qui considèrent que la théologie, malgré tout, doit être inscrite sur l'horizon de notre culture, même si les objets doivent être, à ses yeux, contestés comme objet intramondain. Votre question que vous posez à l'instant est absolument décisive, car en effet, le schème de séparation dans lequel nous sommes, en tout cas dont nous héritons, vient probablement de responsabilités partagées. C'est une expression que vous avez employée qui est très heureuse. Alors, pour ma part, je distingue le vocabulaire de la séparation de la diffraction. D'ailleurs, la modernité, contrairement à ce que nous entendons, est en réalité inaugurée par deux grandes figures et non pas une seule. Non pas seulement Descartes, mais Luther et Descartes. Pourquoi ? Parce que Luther est celui qui sépare la philosophie théologie au bénéfice de la théologie, du moins à ses yeux. La théologie ayant été compromise avec la philosophie dans la scolastique, notamment avec Aristote, auquel il donne des noms d'oiseaux, la théologie doit revenir à son objet propre, c'est-à-dire le Dieu crucifié. Autrement dit, doit travailler sur sa positivité la plus pure, en quelque sorte. N'est-ce pas ? Ça, c'est une posture qui a fait la modernité, et pas seulement le monde protestant, qui a quand même donné des Hegel, des Fichte, enfin des grands, les plus grands de notre culture philosophique. Si vous voulez comprendre Hegel, vous devez absolument lire Luther et Calvin, pour Fichte, pour Schelling, et même Feuerbach, n'est-ce pas ? Ou alors vous ne comprenez pas la phénoménologie de l'esprit, ou vous la comprenez partiellement. Alors, Luther, mais aussi Descartes. Descartes, j'emploie le mot diffraction pour ma part, parce que la diffraction a un avantage sur le mot séparation, c'est qu'elle indique une source commune. Or, Descartes était catholique, Descartes était croyant, Descartes était religieux, et rien ne nous autorise à mettre en cause la parole même de Descartes, revendiquant même un mandat apologétique. Mais Descartes diffractait la philosophie et la théologie dans la mesure où, cette source commune étant reconnue, Dieu créateur, la philosophie seule est en mesure de nous donner des certitudes, et pas seulement la vérité, mais des certitudes éprouvées. La théologie, en revanche, ne devons pas faire l'objet de raisonnement, comme le dit Descartes en réponse à Burmont dans l'entretien avec Burmont. Alors, cela étant dit, Descartes en fin de vie, c'est tout à fait surprenant. Ce point n'est pas suffisamment relevé, sauf par des collègues qui sont depuis 30 ans très au fait de travail dans des recherches cartésiennes. C'est que Descartes a considéré que sa philosophie pouvait rendre service à la théologie néanmoins, notamment dans l'Eucharistie, la question eucharistique. C'est très curieux. C'est très curieux. Descartes, tout en diffractant philosophie-théologie, considère que malgré tout, dans certains domaines, notamment dans l'objet eucharistique, des services peuvent être rendus. C'est tout à fait étonnant. Donc, la diffraction, mais chez Descartes, il n'y a pas véritablement de séparation entre foi et raison. Il la vit, en tout cas, dans sa chair, cette union entre les deux, n'est-ce pas ? Alors, nous en sommes ici à, au fond, au problème que vous posez, qui est le plus difficile et en même temps qui doit être traité. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce qu'il s'est passé un événement d'un astéroïde ? Que s'est-il passé ? Non, il y a certainement des éléments de mémoire que nous devons prendre en compte. Il y a plusieurs hypothèses de travail. Dominique Dubarl, qui était dominicain, qui a travaillé toute sa vie sur cette question, avait une hypothèse que je trouve intéressante et qui consistait à dire que précisément la théologie médiévale avait totalement et voracement absorbé la philosophie et donc le moment moderne était au fond le moment d'une résurgence de l'énergie philosophique trop enfouie dans la période scolastique. Bon, pour ma part, si vous voulez, tout en me laissant inspirer par ce point, je m'en distancierai quand même. En effet, et nous devons prendre en vue toute la période patristique et peut-être médiévale pour comprendre ce qui se passe. La période patristique, Justin, Clément d'Alexandrie, Origène, Saint-Augustin, sont les maîtres d'un discours dans lequel la philosophie n'est pas récusée au sein de la foi. Elle est au contraire assumée dans sa quête même. Qu'est-ce que la philosophie ? C'est la recherche de la sagesse. Les pères considéraient ainsi que la sagesse étant présente dans la personne du Christ, il faut rechercher la personne du Christ. C'est pourquoi d'ailleurs saint Augustin se déclarait philosophe et non pas théologien. Saint Augustin en effet considérait de fait que le mot théologie était un mot païen, venu des Grecs. Donc si l'on était chrétien, il fallait être philosophe. Donc quelle est la démarche propre à la patristique ? C'est une démarche de récapitulation christo-théologique. Toute la philosophie antérieure trouve son sens, trouve sa clé herméneutique, non pas dans la théologie d'ailleurs, mais dans le Christ eschatologique. Cette récapitulation n'est pas achevée, elle a lieu dans l'histoire, mais néanmoins, c'est le théologien qui donne le chiffre, qui présente le chiffre, qu'il n'est pas lui-même. Or, que se passe-t-il bientôt dans la modernité, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, si vous voulez, c'est que les choses se retournent. C'est-à-dire que ce n'est plus la théologie ou le fait chrétien qui devient la clé interprétante de la philosophie, mais nous assistons au mouvement quasi symétriquement inverse, je ne dis pas symétriquement et je vais expliquer, non pas, mais quasi symétriquement inverse, dans la mesure où la philosophie devient la clé interprétative des phénomènes religieux et théologiques. Alors pourquoi quasi symétrique ? Parce que dans la patristique, ce n'est pas le théologien, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le prédicateur qui se prétend, lui, l'homme de la récapitulation, mais nomme l'instance de récapitulation qui est un autre, qui est le Christ eschatologique, c'est-à-dire une fin qu'il ne maîtrise pas. Or, à partir de Lessing, on voit cela d'ailleurs avec Feuerbach, l'un des disciples, fidèle ou infidèle, il appartient à l'histoire évidemment de le dire et de le commenter, Feuerbach considère en effet que toute la clé de la théologie se trouve dans l'anthropologie. Donc on est dans un renversement, un quasi-renversement, c'est le philosophe cette fois, ou la philosophie, qui est la clé d'interprétation de la théologie. Et d'une certaine manière, lorsque aujourd'hui nous travaillons sur la place des religions dans l'enseignement scolaire, par exemple, on voit bien que le théologien n'a pas véritablement sa place pour négocier les objets et les rendre en quelque sorte intelligibles. Il s'agit toujours d'une instance externe qui va donner à la religion son fait et son sens, n'est-ce pas ? Au fond, c'est très curieux, nous sommes, à cause de ce que je viens de dire, dans une situation tout à fait singulière où tout le monde a le droit d'interpréter la religion, sauf le religieux. Hein, comme si, au fond, est-ce qu'on peut s'amuser une seconde ? Comme si on disait, écoutez, tout le monde a le droit de dire ce qu'est du bon pain, sauf le boulanger. Hein. Alors, nous sortons malgré tout de cette situation, mais nous y sommes encore d'une certaine manière, et il faudra du temps, il y a des effets retard, il faudra du temps. Voilà, je crois ce que l'on peut dire, si vous voulez, en quelques mots. Votre question nous oblige à prendre en vue bien des siècles, n'est-ce pas ? Mais il y a des paradigmes qui sont nés, qui se répondent l'un à l'autre, et indéniablement, alors la scolastique médiévale, je n'en ai pas parlé, porte aussi sans doute, entre guillemets, une responsabilité, je ne dis pas culpabilité, une responsabilité. Pourquoi ? Parce que la théologie scolastique, au moins chez Albert le Grand et Thomas d'Aquin, produit des systèmes de rapport entre philosophie et théologie où la philosophie est autonome.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons notre entretien.
Oh, di dolcezza e di diletto, prendi a posto amore, stampare nel mio petto.
Nous reprenons notre entretien avec Philippe Capel-Dumont, donc autour de cette question de philosophie et théologie et autour de ces deux tomes sur quatre de l'anthologie, donc des textes et des auteurs de théologie et de philosophie. Donc je voudrais reprendre un peu notre problématique juste avant, qui me laisse un arrière-goût d'insatisfaction. On a vu effectivement, et ce que vous avez dit dans la première partie, qu'il y avait un effet d'amputation, de diffraction, mais de diffraction qui laissait à supposer que la philosophie qui érigeait la raison en principe premier avait mis de côté, y compris dans l'université, Breillet, la théologie ou ces problèmes-là. Bon, et je me suis permis de vous demander, et c'est pour ça que je voudrais revenir sur ce point-là, quelle était, d'une certaine façon, la responsabilité de la théologie elle-même dans cet élément de séparation. Et vous avez effectivement abordé, mais je voudrais qu'on en revienne là-dessus, ce n'est pas une question de culpabilité, comme vous l'avez dit, mais de responsabilité. Et je voudrais vous citer un auteur qui n'est pas un acharné, donc Walter Kasper, cardinal, qui dit effectivement, dans un livre qui s'appelle « La foi au défi », 1989, qui dit « À la fin du Moyen-Âge, la foi en Dieu fut érigée en une croyance en un Dieu arbitraire, un Dieu qui trompe et abuse l'homme, tout en exigeant de lui une exigence aveugle. Une telle croyance ne saurait dès lors être vécue comme une expérience libératrice de la réalité. » Donc il s'en prend à quoi ? À la scolastique, d'une part, au nominalisme, d'autre part, et puis à une forme d'autoritarisme de l'Église. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'il faut responsabilité partagée, disiez-vous, et c'est pour ça que je reste un peu une forme d'insatisfaction sur votre réponse d'avant, quelle est la responsabilité de la théologie, pour faire simple, hein, dans ce rejet qui a été pour partie le rejet de la philosophie à l'égard de la théologie, dans une forme de théologie, disons pour le faire très vite, héritée de la scolastique ou d'une certaine scolastique qui, comme le dit Walter Kasper, a érigé effectivement un dieu arbitraire. Voilà, donc vous voyez quel est cet effet de libération salutaire. C'est pour ça que je disais salutaire, trop salutaire, humain, trop humain peut-être, mais salutaire, qui peut-être, maintenant, parenthèse étant fermée, peut permettre de revoir autrement ces problèmes-là. Donc vous voyez, sur cette théologie-là, est-ce qu'elle était à ce point modeste, comme vous le disiez, sur la théologie d'aujourd'hui ?
Je vous remercie, j'allais précisément y venir, et votre question me porte à développer davantage encore ce point. Simplement, avant d'y venir, Breillet, au XXe siècle, est la belle figure de la séparation. Heureusement, il y eut d'autres figures, je pensais à Gilson, parce que j'ai créé la chaire de métaphysique de Gilson avec des amis. Gilson est certainement la contre-figure, si vous voulez, au XXe siècle, qui tend à réhabiliter la mémoire des idées théologiques dans la culture française, et nous lui devons beaucoup. En tant qu'universitaire français, même d'ailleurs, Gilson est vénéré aux États-Unis autant qu'en France ou au Canada, et nous devons beaucoup à Gilson. Alors, j'en viens maintenant à votre question, effectivement, qui prolonge ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, à la fin du Moyen-Âge, nous assistons à une posture scolastique que saint Thomas n'avait pas envisagée, ni Albert le Grand, qui consiste à découpler totalement l'ordre de Dieu de l'ordre du monde. C'est-à-dire la double formule qui va faire fortune chez Guillaume d'Ockham, pour ne pas le nommer, mais bon, certains, on peut éventuellement trouver des germes éventuellement chez Duns Scot, qui consiste à dire, il faut distinguer la potentia Dei absoluta de la potentia Dei ordinata. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a deux ordres, un ordre de la création qui a ses lois, et donc qui fait l'objet d'une investigation rationnelle, raisonnable, et l'on peut effectivement dégager une universalité. Et donc le champ de compétence, c'est la philosophie. Et puis, la potentia Dei absoluta, qui est précisément réservée à la théologie, dans la mesure où Dieu est souverain, libre, peut faire que ce qui est ne soit pas, sinon il ne serait pas souverain, libère totalement le champ théologique de la philosophie. Mais inversement, c'est pas, la philosophie n'ayant plus de compétences dans le domaine de la théologie, ce qui est contraire anti-platonicien, anti-aristotélicien. Je rappelle quand même que c'est Platon qui a inventé le mot théologie. Le premier grand théoricien de la théologie philosophique, c'est Aristote, n'est-ce pas, sur le premier metteur immobile. Or, 15e siècle, le découplage du Dieu souverain arbitraire et de l'ordre du monde entraîne un divorce funeste entre les deux champs. De ce point de vue, la fin de la scolastique inaugure une séparation qui va avoir lieu avec la modernité. On retrouve ce schème, donc je rappelle quand même que Luther a été formé dans des milieux occamistes, et que la séparation entre la théologie et la philosophie n'est pas totalement venue ex nihilo. Enfin, il y a aussi des éléments de mémoire, d'éducation, d'instruction. Et Descartes vit dans un moment aussi de la séparation. Alors, Pascal, qui est souvent invoqué à travers sa formule connue, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non pas le Dieu du philosophe, cette formule en réalité ne renvoie pas à une séparation, mais à une hiérarchisation des ordres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, au fond, tout conduit à la théologie. La philosophie doit faire l'aveu de son insuffisance, mais il faut continuer à philosopher pour Pascal. Hein ? Alors, de fait, certains font remonter à Thomas d'Aquin la responsabilité de la rupture, mais Saint Thomas, de fait, est le premier à avoir systématisé l'autonomie de la philosophie. C'est-à-dire que dans l'histoire des idées, il est le premier en théologie à systématiser le fait, à défendre le fait qu'il ne faut pas simplement assumer l'histoire passée de la philosophie en théologie, mais il faut continuer à philosopher. Pourquoi ? Parce que l'intellect étant toujours marqué du sceau divin et de la création, il a sa dignité et donc est capable nativement de penser. Il y a une pensée native que le théologien doit reconnaître. Ça, c'est très thomasien, très thomiste en quelque sorte, n'est-ce pas ? Alors, d'une certaine manière, il y a une responsabilité, mais assumée aussi par la théologie, qui offre un espace à la philosophie. On peut d'ailleurs dire, pour des raisons historiques, que la philosophie moderne ne serait pas grand-chose sans la théologie. C'est par la théologie qu'est sont transportés les Grecs, mais c'est aussi la théologie médiévale qui réorganise les rapports entre philosophie et théologie. Et ainsi, cet espace donné à la philosophie par la théologie n'est pas pour rien dans l'avènement de la philosophie moderne, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, mais je pense que vous souhaitez que nous y venions aussi, comment aujourd'hui repenser ces systèmes de rapports. Mais on voit bien que l'histoire nous lègue des déséquilibres, si vous voulez. La modernité elle-même, contrairement à ce qu'elle pourrait imaginer, est elle-même dépendante de cette mémoire scolastique et est entrée dans cet espace, cette conquête de l'autonomie de la raison, mais que la scolastique avait régulé par un système de rapport, parce que de fait, la théologie considère dans le monde scolastique qu'elle est l'instance, malgré tout, qui juge l'espace philosophique. Mais elle lui laisse, elle crée cet espace philosophique, n'est-ce pas ? Elle le crée, elle lui donne un poids considérable. Il est quand même remarquable, d'un mot pour donner une illustration, remarquable que des concepts théologiques majeurs dans la théologie chrétienne reprennent des noyaux sémantiques qui viennent du grec. Je pense qu'on pensait eux-mêmes au mot charistie, transsubstantiation, substance. Ben, ce sont des mots qu'on ne trouve ni en araméen ni en hébreu. Autrement dit, il y a des subversions de sens qu'opère la théologie à partir de concepts qui viennent du grec. C'est dire que la théologie chrétienne n'a jamais refoulé les objets philosophiques, mais leur a donné, par métamorphose, de nouveaux champs de signification.
Je voudrais qu'on comprenne mieux la nouvelle donne dont vous parlez, qui me semble être, au regard de ce que vous dites, un élément de double modestie, si on veut. Donc on a vu effectivement une théologie qui n'a pas toujours été modeste, qui l'est sans doute devenue au XXe siècle par son objet même, et une philosophie qui, depuis quelques siècles, n'a pas été modeste du tout et a rejeté, effectivement, c'est ce que vous disiez, cette séparation, cet élément de relégation de la théologie en dehors du champ du rationnel, de ce qui est appréhendable par la raison. Donc la nouvelle donne, et je voudrais que vous nous donniez quelques éléments de perspective avant que d'aborder dans une deuxième partie les deux premiers tomes donc de cette histoire. Il me semble qu'il y a une figure qui peut exprimer au mieux cet élément de nouvelle donne, c'est un philosophe comme Habermas. Habermas montre bien aujourd'hui, effectivement, lui, héritier des Lumières, qu'effectivement, il y a un effet d'épuisement, d'une certaine façon, de la philosophie des Lumières, et que donc, cette philosophie des Lumières, la philosophie peut faire appel, doit faire appel à quoi ? La philosophie religieuse, la théologie, la réserve de sens de la théologie pour redonner ce sens que la philosophie n'est plus à même de pouvoir procurer. Donc, ma question, c'est de dire, est-ce qu'effectivement, nous ne sommes pas là, et vous me dites si je me trompe ou pas, au moment du carrefour, qui rencontre sans doute des résistances, mais au moment du carrefour d'une double modestie assumée, pour partie ou pas complètement, de la philosophie elle-même, qui se rend compte que le sens, peut-être, n'est pas complètement contenu dans le projet philosophique des Lumières, et d'autre part, de la théologie elle-même, qui aujourd'hui a fait l'apprentissage ou est revenu à un apprentissage modeste de sa pratique et ou de son objet.
Alors, nous parlons bien de la théologie chrétienne, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'est pas sûr du tout que dans d'autres religions, l'approche de la distance réflexive à l'égard des objets religieux soit élaborée comme elle est élaborée dans l'histoire de la théologie chrétienne. Il y a théologie précisément parce qu'il n'y a pas simplement que religion. Et la théologie n'est pas mimétisme ou répétition, elle est reprise réflexive interrogeante des objets religieux, n'est-ce pas ? Donc il n'est pas sûr que d'autres sphères religieuses aient une théologie, cela ne va pas de soi. Et souvent on emploie ces mots comme étant équivalents, indistincts, alors qu'ils signalent une différence angulaire, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, en toute hypothèse, le christianisme est incompréhensible sans la reconnaissance de cette place de la distance à l'intérieur de lui-même, n'est-ce pas ? Alors, vous avez raison en parlant ainsi de double modestie. De fait, la théologie a fait son deuil d'une entreprise en quelque sorte vorace, assumant toutes les intelligibilités. On peut dire que l'affaire Galilée en juin 1633, dans ce rapport aux sciences, est un fait fondateur, une donnée fondatrice, et pourtant elle tourne. La théologie apprend à distinguer l'ordre méthodologique et de questionnement propre aux sciences, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi suis-je en train d'évoquer Galilée alors qu'il s'agit de contemporains ? Parce que nous vivons un moment de respect des ordres de rationalité. Il y a plusieurs ordres de rationalité. L'ordre de science n'est pas l'ordre esthétique. L'ordre philosophique n'est pas l'ordre de théologie. Et d'une certaine manière, nous sommes en train de reconnaître, en toute hypothèse, nous ne l'avons pas encore fait, nous sommes en train de reconnaître, nous sommes sur le chemin de la reconnaissance, le chemin est encore long, sur le chemin de la reconnaissance de ces différents ordres de rationalité. Mais nous ne pourrons pas revenir en arrière. La philosophie a son ordre propre de questionnement. Il faut la laisser à sa libre aventure aussi. La pensée a ses propres réquisites. La théologie aussi, précisément, a son réquisite, c'est-à-dire qu'elle produit l'intelligibilité sur le monde, elle n'est pas simplement l'expression d'une option privée émotionnelle, elle est véritablement un discours réflexif dans la durée qui suppose lui aussi des régulations scientifiques, des rapports au texte, l'analyse de texte. Les théologiens font ça très bien, comment analyser l'histoire de la rédaction des textes religieux, tout ça est fait, il y a des méthodes et on peut y accéder. De même, l'esthétique a son ordre propre, elle ne peut pas être absorbée dans une théologie ou une philosophie. Il y a un déploiement autonome de l'ordre esthétique, de la musicalité, du pictural et de l'architectural. Alors, nous sommes au fond, au XXe siècle, autrement dit, dans une conversation qui n'est plus simplement bipolaire, mais quadripolaire. C'est-à-dire que le pensable ne se joue plus comme il fut pendant 19 siècles, c'est joué entre deux pôles. Nous ne sommes plus dans une représentation bipolaire du pensable, mais quadripolaire, où interviennent ces quatre champs de rationalité, si vous voulez, qui doivent apprendre à converser. Alors, l'affaire est loin d'être acquise. On a encore des scientistes résiduels. On aura toujours des théologiens qui considèrent que la philosophie est simplement auxiliaire. On considérera toujours des philosophes qui prennent en vue la théologie comme l'objet sans raison, uniquement irrationnel, magique. Bon, on aura toujours, en quelque sorte, ces poches de résistance. Mais nous sommes en train de conquérir un espace du pensable où chaque ordre dit sa dignité propre. Le problème étant celui de la reconnaissance entre ces différents ordres. Alors, la théologie doit continuer son travail pour reconnaître le chemin propre de la philosophie, mais ce chemin propre n'exclut pas l'inspiration religieuse. Je suis très frappé de voir qu'on admet assez facilement en France que le philosophe puisse avoir une inspiration bouddhiste, hindouiste, mais surtout pas une inspiration chrétienne. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Le philosophe peut recueillir une énergie propre dans des champs de conviction, mais les déployer dans une rationalité, dans des méthodes qui appartiennent à l'universalité du raisonnement. Enfin,
et donc les quatre pôles dont vous parliez, donc, c'est
le champ philosophique, l'ordre philosophique, l'ordre théologique, l'ordre scientifique et l'ordre esthétique. Nous sommes, me semble-t-il, en train de vivre le pensable contemporain sous ces quatre modes-là.
Et est-ce que vous considérez, par exemple, et puis on s'arrêtera là sur cette première grosse partie, est-ce que vous considérez, par exemple, qu'effectivement, le dialogue emblématique entre le cardinal Ratzinger et puis, effectivement, Habermas, chacun faisant un travail d'auto-modestie, à la fois sur le projet philosophique et à la fois sur la théologie, est de nature à inaugurer cette nouvelle donne qui, peut-être, s'ouvre à nous.
Vous venez de me souffler la référence, car en effet, j'entendais bien faire référence à ce débat entre Joseph Ratzinger et Jürgen Habermas. qui est un débat important, qui compte à la fois pour la théologie et pour la philosophie. Habermas, en effet, dans ce dialogue, sanctionne un itinéraire de réflexion personnelle qui, depuis l'agir communicationnel tel qu'on l'a connu dans les années 60-70, en est venu, en effet, à considérer les objets religieux, les phénomènes religieux, comme des phénomènes de plein droit, ayant droit de diffuser du sens dans la conversation civique. Dans le monde anglo-saxon, on était un peu habitué, depuis Charles Taylor, depuis McIntyre notamment, à entrer dans une nouvelle manière de penser qui considère en effet que l'universel ne se déplace pas simplement dans l'activité raisonnable kantienne ou post-kantienne. Je pense notamment à John Rawls, par exemple, qui est l'auteur de Theory of Justice de 1971, qui a systématisé au fond une morale, une théorie de la justice qui ne doivent rien à la religion. Charles Taylor et McIntyre aux États-Unis furent les auteurs qui, en contraposition, ont voulu habiliter la tradition, le poids de la tradition donnant sens. Alors, en Allemagne, on a quelqu'un qui s'appelle Gadamer et qui nous a quittés voici peu. Gadamer, en effet, le premier à voir sans doute, après Heidegger, habiliter le concept de tradition et de préjugés. C'est-à-dire que nous sommes toujours portés, qu'on le veuille ou non, par une tradition, par un préjugé. Et nous ne sommes pas des êtres ex nihilo. Et lorsque nous revendiquons une activité raisonnable, nous ne pouvons pas considérer qu'elle est ex nihilo. Alors, je rappelle d'ailleurs que Kant, lorsqu'il s'inquiète dans la religion dans les limites de la simple raison du phénomène de religion, considère qu'au fond, sans la religion, peut-être nous n'aurions pas accédé à cette activité de la raison. Et nous ne serions pas à ce niveau d'élaboration de la raison. Donc Kant lui-même... Alors Habermas, le dialogue Habermas-Ratzinger, puisqu'il est maintenant connu comme tel, est un moment de notre culture, puisque Joseph Ratzinger, pour sa part, défend admirablement l'idée selon laquelle, en effet, la tradition théologique elle-même, non seulement est porteur de sens, mais porteur d'universalité dans le sens, n'est-ce pas ? Et donc, on est en train de reconsidérer sous la forme de porosité, au fond, la raison philosophique et la raison théologique, alors qu'on était dans des champs de séparation. Porosité veut dire zone frontalière, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la confusion des ordres, n'est-ce pas ? Mais nous sommes dans la distinction des ordres, cette distinction impliquant des porosités, des zones frontalières, des objets communs. Est-ce que les méthodes sont les mêmes ? Non, certainement pas. Mais néanmoins, il n'est pas possible de vivre dans un espace sans cette reconnaissance mutuelle. Alors la reconnaissance suppose la modestie. Je pense pour ma part, en tant que philosophe, que la philosophie universitaire a tout à gagner d'une relation organisée, scientifique avec la théologie. Non pas simplement pour y trouver un supplément d'âme, pour prendre une formule connue, mais pour y trouver aussi les ressorts de sa propre naissance. Je rappelle que la philosophie est née dans le divin. Platon était un penseur du divin. Aristote connaissait parfaitement la théologie astrale de son temps. Les stoïciens faisaient de la théologie. Voilà. D'une certaine manière, la philosophie risque de s'assécher si elle ne prend pas en vue ce qui fait aussi la vie concrète de milliards de gens autour de nous qui ne sont pas nécessairement des hommes de la régression psychologique et qui revendiquent un rapport au divin, que ce soit en Chine, dans le bouddhisme chinois, dans l'hindouisme ou dans le christianisme. Il y a une sorte d'exposition de l'humain à des phénomènes et à des réalités. Il faudrait que le philosophe ait une... De fait, les choses se passent ainsi, je crois que nous y allons, et une vue positive de cette exposition à l'eschaton, à l'impossible, à l'infini. Et d'une certaine manière, la vie de l'homme ne se résume pas simplement à ce que Kant estimait, c'est-à-dire la positivité sociale, le permis de conduire, avoir de quoi avoir payé ses fins de mois, etc. L'homme est en demande de fin avec un IN, est en demande d'eschatologie, est en demande de projet, de vision, de sens, qui d'une certaine manière lui donne sa dimension. Et exclure la théologie de principe, c'est aussi se fermer à ce qui fait la grande dignité de l'homme, sa grande ambition intellectuelle, son anthropologie, autrement dit. Et ce n'est pas réduire l'anthropologie que d'exposer l'homme ainsi à des champs de sens, au contraire, c'est peut-être lui donner aussi la chance de nouveaux élargissements.
Nous allons observer une page musicale et nous reprenons notre entretien.
Thank you.
Donc nous reprenons notre entretien avec Philippe Capel-Dumont et nous allons maintenant dans cette nouvelle partie essayer de faire un peu d'histoire de la philosophie ou d'histoire de la théologie ou du croisement des deux, car c'est l'objet effectivement de ces quatre tomes dont deux sont parus, que de tricoter ensemble cette théologie et cette philosophie, même si les mots n'ont pas le même sens et même si effectivement nous ne parlons pas de la même chose à des époques différentes. Donc commençons par le premier tome, donc philosophie et théologie dans la période antique. Alors ce qui est assez surprenant pour quelqu'un d'un peu ignorant, c'est de découvrir d'une part qu'il y a une théologie avant le christianisme, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le mot de théologie vient de Platon, livre 2 de la République, où Socrate dit « Or, Dieu n'est-il pas essentiellement bon et n'est-ce pas, suivant cette idée, qu'il faut en parler ?» Car il faut en parler. Donc, il y a effectivement cette théologie avant le christianisme qui existe. Et puis, et je voudrais que vous nous brossiez toujours rapidement, excusez-nous, mais nous sommes là que pour inviter aussi nos lecteurs à aller puiser dans cette mine incroyable où il y a des myriades de textes et de références qui permettent d'alimenter la réflexion sur ce couplage des deux. Donc d'essayer d'une part de nous indiquer cette théologie avant le christianisme d'une part, et puis comment dans les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église vont se mettre dans la confrontation avec la philosophie et se considérer eux-mêmes comme des philosophes, considérant que la religion chrétienne est une philosophie comme d'autres ou parmi d'autres. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous remettre en scène cette philosophie-théologie grecque d'avant le christianisme et puis cette confrontation des premiers siècles, ce qui nous permettra après d'avancer un peu plus dans la chronologie de cette double lecture.
La relation philosophie-théologie est originellement intra-philosophique. Elle appartient au monde philosophique. Lorsque Platon invente le mot théologias, en effet, c'est pour inviter à ce que vous venez de citer dans la République. D'ailleurs, je fais remarquer que c'est dans la République, c'est-à-dire la dimension politique. La question de Dieu est aussi une dimension du l'être ensemble. Et on ne peut pas dire n'importe quoi pour des raisons qui tiennent aussi au vivre ensemble politique de la République, de la chose publique. Donc une chose publique et non pas simplement une chose circonstancielle ou isolée, etc. Lorsque Platon invente cette formule théologias, en effet, la question étant celle de la critériologie du divin. Comment et sur quels critères parler de Dieu ? Est-ce qu'il faut en parler de façon passive, sous la forme d'un reçu ? Les ancêtres ont dit que, donc je répète que. Je signale que, d'une certaine manière, Platon est très actuel, car nous avons autour de nous encore des systèmes de pensée pour lesquels ça a été dit, donc je répète, n'est-ce pas ? Or, Platon invente le mot théologie pour des motifs philosophiques, il faut des critères de discours sur Dieu. Comment en parler ? Alors, en réalité, Platon est beaucoup plus inquiet du divin théion que du dieu théos. Et en réalité, Platon organise plutôt une théologie, un discours du divin. Tout est divin chez Platon. Hein ? Les dieux font partie de cet espace du divin, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des dieux créateurs comme le judaïsme ou le christianisme porteront. Hein ? Lorsque Aristote, en revanche, se saisit directement du mot théologie, dans ce qui s'appellera plus tard la métaphysique, Aristote entend par le biais du mouvement montrer comment il est possible d'habiliter le concept de Dieu en raison. Hein ? C'est pourquoi il l'appelle le Dieu premier moteur immobile, c'est-à-dire celui qui attire vers lui toutes les forces cosmiques, tout le monde sublunaire. Dieu est reconquis en raison, mais pour autant, Aristote n'invente pas le mot Dieu. Là encore, il est dans une forme d'approche, d'ailleurs très scolastique de Aristote, a été fausse à considérer que Aristote était celui qui produisait par la raison le concept de Dieu. Aristote ne produit pas le concept de Dieu, mais il lui donne une forme d'habilitation rationnelle par le biais du mouvement. Et il se pose la question, mais est-ce que ceci n'est pas en rapport avec l'astre divin ? Il se pose lui-même la question du rapport entre la théologie philosophique, c'est-à-dire la question philosophique de Dieu, et la question religieuse de Dieu et du divin. Lui-même, Aristote, pense, mais ne résout pas cette question, au moins porte la question.
Donc vous voulez dire que les pères de la philosophie, donc que sont Platon et Aristote. Donc, pour eux, il n'y a pas de séparation. Nous ne sommes pas dans la séparation entre la sphère du divin et la sphère de l'humain. La sphère du privé qui serait effectivement, pour reprendre nos catégories actuelles, du privé qui serait celui de la religion et la sphère de la chose publique, donc la République, qui serait autre chose.
La théologie est une discipline philosophique. Et c'est un objet qu'il faut traiter dans sa logique propre. Il est remarquable d'ailleurs qu'Aristote, comme l'a montré Pierre Aubanc, va très très loin, nous instruit encore aujourd'hui dans la mesure où, s'inquiétant de l'objet Dieu philosophiquement, veut lui donner toute sa logique, à telle enseigne que Aristote considère que le seul théologien, au fond, c'est Dieu, n'est-ce pas ? C'est une forme de modestie du philosophe grec, n'est-ce pas ? La philosophie n'est pas vorace, elle met le doigt sur un objet, mais qui lui-même porte son propre horizon, sa propre force, sa propre intelligibilité. D'une certaine manière, nous devons être, si vous permettez encore, être aristotéliciens de ce point de vue, dans la mesure où Aristote ne considère pas que le philosophe a la mainmise sur les objets, mais doit leur donner toute leur force, la puissance de discours qu'ils méritent, n'est-ce pas ? Alors, les stoïciens font de la théologie aussi. On trouve le mot théologie, il y a un secteur, un volet théologique chez les stoïciens. Il est remarquable que le volet théologique, d'ailleurs, proche de la physique, au fond, étant le feu primordial, s'enquérir de théologie, c'est s'enquérir de physique chez les stoïciens. Alors, que se passe-t-il lorsque le christianisme rencontre la chose philosophique, n'est-ce pas ? Il aurait pu être tenté par le rejet. Nous avons maintenant une nouvelle vérité, toutes les autres sont idolatriques. Or, jamais le chrétien ne dira « la philosophie est idolatrique ». Lorsqu'il s'est agi d'opposer la sagesse du monde et la folie de la croix, il ne faut pas élire un rejet de la philosophie. Lorsque dans Romains 1:20, saint Paul fait valoir que l'on peut par l'intelligence remonter des effets vers Dieu, il montre bien justement qu'il y a une continuité possible et que par la création, il est possible d'accéder au divin et à Dieu lui-même.
Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas au début de théologie chrétienne.
Non, il n'y a pas de théologie chrétienne, d'ailleurs, ou alors c'est par extension que l'on peut employer le mot théologie, si vous voulez, mais le mot théologie chrétienne n'aura véritablement de sens qu'au 5e, 6e siècle, mais c'est surtout Abélard qui fait de la théologie une science autonome. C'est pas, il faudra attendre le 11e siècle. Les premiers siècles sont des siècles plutôt philosophiques en christianisme. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'assumer la quête de sagesse. Lorsque nous parlons de philosophie aujourd'hui en Occident, nous avons la tendance à considérer la philosophie comme une organisation théorique des savoirs. Or, la philosophie des Grecs jusqu'aux stoïciens Épicure, c'est une quête de sagesse pratique aussi, une disposition spirituelle. Pirado a bien montré que dans la philosophie antique, c'est aussi une ascèse spirituelle chez certains, et qu'il s'agit en effet de se disposer à l'objet. Alors, les premiers chrétiens, j'ai beaucoup d'admiration pour saint Justin, parce que c'est le premier philosophe qui se convertit, comme vous savez, à la foi chrétienne. Et pour Justin, il ne s'agit absolument pas de récuser la philosophie, mais de... D'ailleurs, Justin a cette formule, « Je suis devenu croyant, et voilà comment je suis devenu philosophe ». Augustin s'inscrira dans cette même veine. De fait, il y eut, c'est une expression de Harnack, il y eut une hellénisation du christianisme. Mais Overbeck ou Harnack ont pu interpréter cette hellénisation comme une dénaturation du christianisme. Je crois que c'est un contresens, dans la mesure où le christianisme ne s'est jamais délivré autrement que sous le mode de la traduction. Alors, vous aurez remarqué que les textes néo-testamentaires ne sont pas écrits dans la langue de leur fondateur, l'inspirateur premier, en araméen, ni en hébreu, mais sont écrits en grec, c'est-à-dire dans la langue de communication. Hein ? D'une certaine manière, Justin est assez fidèle avec cette herméneutique-là, c'est-à-dire que s'il y a vérité, elle doit pouvoir se communiquer dans la langue la plus commune, n'est-ce pas ? Et donc, il n'y a pas de pureté illusoire d'un message qui serait toujours dans l'antériorité. Le message se donne toujours dans la communication. Donc l'herméneutique chrétienne inaugurale de la philosophie est une herméneutique qui donne un espace à la philosophie. Et c'est une constante, même chez des latins comme Tertullien, qui ont pourtant été reçus dans l'histoire des idées comme l'homme de la rupture et de la séparation. Quand on y regarde de près, d'ailleurs tous les commentateurs aujourd'hui sont d'accord, hein, quand on y regarde de près, Tertullien qui est si violent pour la philosophie, qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem ? Ces formules extrêmement violentes visent à dire qu'il y a malgré tout un seuil qualitatif entre la philosophie et la théologie, mais il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation brutale, il y a un saut qualitatif à franchir de l'un à l'autre.
Oui, parce que ce que vous dites, et ce qui est présent dans le premier tome, c'est que d'une certaine façon, et c'est ça qui est assez sidérant, c'est ce que vous disiez sur les efforts de traduction, c'est que les premiers pères vont chercher à comprendre cette novation chrétienne qui est incompréhensible. Et donc emprunter, comme on le peut, comme on traduit quelque chose, c'est ça que vous dites, la traduction, l'herméneutique, la traduction, emprunter dans des boîtes à outils philosophiques autour pour dire bah, c'est quoi cette novation, cette nouveauté chrétienne dont parle Irénée. Et en plus, ce qui veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de langue originelle, il n'y a pas de philosophie originelle, il n'y a pas de texte philosophique constitué. Donc, il y a effectivement peut-être hellénisation, mais peut-être aussi donc chercher à comprendre cette novation, cette nouveauté chrétienne par tous les moyens.
Je dirais qu'il y a une double détermination, à savoir la détermination de l'auto-compréhension et la détermination de la communication. Il faut que le christianisme puisse se comprendre, s'auto-interpréter, et c'est une quête que Clément d'Alexandrie, mais Origène aussi, Saint-Augustin, intègre. Il faut que le christianisme s'auto-interprète. C'est pourquoi il n'hésitera pas à prendre des conseils philosophiques. Mais aussi, il faut qu'il communique, car ce n'est pas un message destiné à quelques élus, c'est un message public. Et donc, il faut qu'il soit entendu dans la langue majoritaire, la langue philosophique. Hein. Même si cela fait rire, vous savez que Saint Paul en fait les frais dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il annonce le Dieu inconnu à Athènes, et évidemment, les Athéniens lui disent « Écoute, mon cher ami, à propos de la résurrection, nous t'entendrons là-dessus une autre fois, pointe d'ironie majeure. » Ce qui veut dire que la chose ne s'est pas faite sans heurts. Il y a eu des heurts, des difficultés. Mais néanmoins, le processus est en marche.
On va faire une dernière pause musicale, ce qui va nous permettre, dans une dernière partie, d'aborder la philosophie et théologie au Moyen-Âge. Nous reprenons donc notre entretien avec Philippe Capel-Dumont, donc autour de ces quatre tomes, dont deux sont publiés, donc Philosophie et Théologie, et donc le deuxième tome, hein, je m'excuse auprès de nos auditeurs et auprès de vous, d'aller comme ça un peu vite pour aborder des sujets qui laisseraient supposer qu'on puisse sur chaque auteur s'arrêter, pour la question effectivement du Moyen-Âge. Donc le deuxième tome est dirigé par Olivier Boulnois, et Olivier Boulnois met en avant, au début, en commençant ce tome, sur l'idée reçue qu'il y a effectivement une servitude de la philosophie, une philosophie servante de la théologie. Et lui dit, bon, distinguons un peu les domaines et distinguons surtout le premier Moyen-Âge, si on veut, du dernier Moyen-Âge, voilà, considérant que, dit-il, la théologie est une invention médiévale, d'une part, et que, deuxièmement, c'est la théologie médiévale, l'Église qui a inventé l'université, donc la capacité à pouvoir enseigner la philosophie. Donc je voudrais que vous distinguiez bien, dans un premier moment, et que vous nous éclairiez là-dessus, sur cette idée effectivement de y a-t-il eu pour le Moyen-Âge, et comment est-ce qu'on peut articuler les deux, servitude de la philosophie, dominée, instrumentalisée, tenue en laisse par la théologie ou non ?
C'est la grande crainte de la théologie scolastique, c'est de voir la philosophie en quelque sorte prendre un espace qui devienne concurrentiel avec celui de la théologie. On atteindra très vite le conflit des facultés, ce qui s'appelle conflit des facultés, qui va d'ailleurs donner lieu à des bulles épiscopales.
À quel moment
En plein XIIIe siècle, qui consiste notamment l'évêque templier, qui en effet entend lutter contre l'indépendance de la philosophie. Mais on trouve déjà chez Pierre Damien, dans son livre sur la toute-puissance, on trouve déjà des accents de ce type, n'est-ce pas, qui visent à réguler l'enseignement de la philosophie dans la théologie. Alors, néanmoins, l'université est inventée par le monde médiéval avec des facultés différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une école religieuse, on a des départements de sciences, une faculté de théologie, la faculté des arts. Et donc c'est la reconnaissance dans le monde médiéval chrétien de la diversité des ordres de vérité. N'est-ce pas ? C'est tout à fait remarquable. Bon, cela dit, il y a plusieurs moments dans la scolastique, il faut éviter de lire la scolastique comme un monde homogène, c'est un jeu de combinatoire complexe.
Alors distinguer un peu effectivement pour nos auditeurs les moments.
Le premier moment ou le moment où la théologie est vraiment inventée, c'est Abélard, si vous voulez, comme science autonome. La théologie doit pouvoir conquérir d'elle-même les règles de son propre discours. Voilà, c'est bon. On arrive ensuite avec Albert le Grand, Thomas d'Aquin. C'est un moment essentiel dans la mesure où l'espace philosophique est conquis dans son autonomie et toutefois régulé, instruit par le jugement théologique. Mais néanmoins, produit. Il y a un troisième moment, pour faire très court, c'est le moment du 14e-15e siècle, où pour le coup, on a une séparation, cette fois, des deux ordres, ce que nous évoquions tout à l'heure à propos de Guillaume d'Ockham, qui est le trait par lequel certainement nous entrons déjà en modernité. Donc, ces différents âges montrent bien que tout le moment scolastique, c'est un moment de réglage continuel des rapports philosophie-théologie. Alors, on en a retenu plus souvent le XIIIe siècle, mais en réalité, la scolastique est mobile. Elle cherche continuellement les équilibres. Donc, le moment thomasien reste néanmoins celui qui est certainement celui qui est le témoin de la plus grande tentative. Pourquoi ? Ce que récuse le XIIIe siècle, c'est l'idée que l'on puisse néanmoins aller jusqu'au bout de la raison philosophique. N'est-ce pas ? Il faut toujours pourquoi ? Parce que, malgré tout, qui a permis qu'il y ait un homme raisonnant et intelligent, c'est Dieu. Donc, il faut que la théologie, malgré tout, les derniers mots. De ce point de vue, alors, que suis-je en train de dire ? Je suis en train de dire une caractéristique de la théologie en christianisme, car il n'est pas sûr que l'on retrouve ce genre de situation dans d'autres configurations religieuses. C'est-à-dire que le christianisme crée en son lien une sorte d'espace. Il dédouble en quelque sorte le champ de vérité. La vérité théologique n'implique pas une attitude déductive. Il faut au contraire procéder inductivement, c'est-à-dire recueillir les champs de vérité qui viennent hors de la théologie. Et la théologie dessine cet espace dans lequel la vérité ne sera pas que théologique.
Alors c'est un point, alors je vais reprendre pour que vous puissiez mieux développer ce point-là. C'est un point donc qui est cité dans l'introduction d'Olivier Boulnois et qui renvoie donc à un livre de Rémy Brague, Au moyen du Moyen-Âge, qui vient de paraître en poche, où il dit effectivement, alors ça c'est, je voudrais avoir votre explication et votre compréhension de cet élément-là, qu'il y a, c'est moi qui mets ces mots-là là-dessus, mais un effet, disons, de laïcité, de séparation, si on veut, c'est-à-dire, dit Rémy Brague, il y a un décollage de l'Occident qui se fait par la théologie, considérant que la théologie admet l'existence de vérités extérieures à elle. Donc il y a une séparation des ordres qui se fait au sein de la théologie et non pas contre elle. Voilà. Alors ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Parce que ça vient remettre en cause beaucoup de certitudes que l'on a, comme quoi effectivement la philosophie aurait reconquis son champ contre la théologie. Et Rémy Brague, et au Moyen-Âge, peut-être que vous partagez ce point de vue, donc la théologie a ménagé en son sein un espace qui lui échappe, au sens où il y a d'autres vérités qui ne sont pas les siennes.
L'histoire nous oblige, je crois, à renoncer définitivement à l'idée selon laquelle l'espace de laïcité ou l'espace d'autonomie aurait été conquis contre la religion. En réalité, le christianisme porte en lui toujours déjà la diffraction de l'événement de vérité, c'est-à-dire que la vérité se donne en tant qu'elle laisse un espace à la vérité. Alors ceci nous oblige à des conversions de sens, des conversions peut-être tout court, notamment dans l'approche indifférenciée du phénomène religieux, comme si toutes les religions étaient ici indifférenciées. Or, il y a à cet égard des différences angulaires. Je partage avec Rémy Brague l'idée selon laquelle, enfin du moins le point d'attention qui mérite d'être retenu, je crois qu'il a tout à fait raison, selon lequel la Bible chrétienne est faite de deux textes dans lesquels l'un n'absorbe pas l'autre. Le Nouveau Testament n'absorbe pas l'Ancien. Mais il cohabite, c'est-à-dire qu'il y en a bien deux textes. Et donc l'altérité a un statut dans le texte biblique, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr que dans d'autres textes religieux, il y ait maintenu ainsi de façon angulaire l'altérité. Lorsque la théologie chrétienne pense son rapport à l'objet, elle a déjà un modèle, qui est la Bible canonique, hein, qui est structurée dans l'altérité. Il y a deux textes, même si le second texte renvoie à un événement nouveau, il n'annule pas. La Bible est comme telle, sans ménagement, n'est-ce pas, intégrée dans la Bible chrétienne. Il n'y a pas de manipulation du texte, n'est-ce pas ? Ceci me paraît très important, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pour prendre une formule de Rémy Brague, de digestion, mais on inclut, mais on ne digère pas, n'est-ce pas ? On maintient dans sa nativité le moment de vérité de l'altérité en l'hypothèse de la Torah.
Hein. Contrairement à ce qui aurait pu se passer, parce que le christianisme aurait pu, il y a eu des tentations au début du christianisme, de séparer complètement l'ancien du nouveau et de considérer que le nouveau est supérieur à l'ancien, et donc qu'on n'est pas là pour réinterpréter ou relire, mais pour séparer.
C'était l'hérésie de Marcion, qui était condamnée dès le IIe siècle. Marcion est rejeté par l'Église catholique. En effet, il y a une forme de disposition antisémite, enfin objectivement antisémite, qui consiste à rejeter l'altérité juive. Or, le christianisme ne rejette pas, lui donne un statut. Alors, on peut toujours contester, mais il y a un statut, un respect de l'entièreté de la textualité. Alors, le mauvais procès qui est fait au christianisme sur lequel il est la vraie religion, doit s'inspirer de cette réalité d'histoire, n'est-ce pas ? Et donc toute la théologie médiévale qui se systématise s'organise dans cette altérité. Alors, ce que vous appelez la laïcité, c'est le moment d'autonomie. c'est-à-dire le respect de la nativité de la pensée, du moment natif de la pensée, l'actualité, la pensée en acte, qui a un statut propre. Et, alors, il y a cette idée qui est très chrétienne, on a tort de considérer que cela vient d'Averroès, enfin, que Dieu ne peut pas se contredire. Et alors, ce qui est dit par la raison ne peut pas venir contredire ce qui est dit par la foi, dans la mesure où Dieu est le créateur de l'homme raisonnable et de l'homme croyant, n'est-ce pas, par sa révélation, instruit l'homme. Donc cette idée de non-incompatibilité rend possible l'idée selon laquelle le théologien doit laisser tout son espace à l'homme de raison. Et donc tout le Moyen-Âge est structuré par cette idée jusqu'au divorce que nous évoquions tout à l'heure, à la fin de la scolastique, qui est assez funeste. Enfin, le moment occamien est certainement le moment où s'inscrit le divorce dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement, et c'est ça ce qu'il faut bien comprendre sur ce Moyen-Âge, il y a deux moments contradictoires. Qui est le premier moment, à savoir celui du respect de l'autonomie et de sciences qui sont extérieures et qui doivent être respectées comme telles, extérieures à la théologie. Et puis, effectivement, ce que vous disiez sur Occam, à savoir le moment où il y a peut-être confusion, où il y a asservissement de ce qui est extérieur à la théologie.
Tout à fait. C'est-à-dire, le discours sur Dieu ne devant rien à l'ordre du monde et l'ordre du monde ne devant plus rien à Dieu. On est ici en train de créer les... Il y a une manière d'envisager le concept de Dieu totalement détaché de l'homme qui rend son objet suspect, si vous voulez. Or, je suis très frappé, enfin, on ne peut qu'être très frappé de lire dans la théologie scolastique une sorte de ténacité, d'obsession de maintenir, malgré la dissemblance, une semblance, et malgré la semblance, une dissemblance, si vous voulez. Voilà, le quatrième concile de Latran l'exprime. Et donc, il n'y a jamais de dissemblance seule, il n'y a jamais de semblance seule, n'est-ce pas? Et c'est cette tension qui, à la fois, règle et en même temps rend difficile le réglage des rapports philosophie-théologie. Alors, nous héritons de ces difficultés. Elles ne pouvaient que surgir dans l'histoire. Elle a donné lieu à cet espace moderne dont nous héritons. Nous sommes en train de changer de paradigme, je le crois. Et peut-être faudra-t-il encore attendre quelques bonnes décennies pour que tout cela se réalise. Mais je crois qu'il faudra que nous sortions certainement de ce qui se passe en ce moment, qui néanmoins dont il faut tirer bénéfice, ce que j'appelle la fragmentation, si vous voulez, postmoderne, dont il faudra tirer bénéfice probablement avant de le stigmatiser, n'est-ce pas? Et pour que la fragmentation devienne différente, il faut un principe de reconnaissance. Et donc il faudra sans aucun doute que les ordres de rationalité participent d'un principe de reconnaissance. Et pour le coup, nous sommes véritablement en chemin. À l'heure où nous parlons, nous sommes sur le chemin de cette conquête, n'est-ce pas?
Et donc nous allons nous arrêter là, considérant effectivement que pour regarder en avant, il faut regarder en arrière. Et donc, les deux tomes, pour l'instant, et les quatre que nous allons avoir, donc 2009 pour les deux premiers, 2010 pour les deux suivants, nous donnent des textes, donc des moyens de comprendre cette difficulté inhérente à la philosophie médiévale, à savoir, effectivement, cette séparation des ordres et où, à la fin, cette confusion, d'une certaine façon, des ordres, cet asservissement de la philosophie ou des sciences extérieures à la théologie. Et tout cela, disons, est donné texte par texte, auteur par auteur, sur ces deux volumes que nous avons. Donc nous parlions en particulier du deuxième, et sans doute aurons-nous la chance de vous recevoir pour les deux suivants qui seront encore plus volumineux et qui nous permettront de nous introduire dans cette modernité. Donc Philippe Capel-Dumont, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Et donc je renvoie nos auditeurs à ces deux tomes, donc Philosophie et théologie dans la période antique, donc volume dirigé par Jérôme Alexandre, et le deuxième tome, Philosophie et théologie au Moyen-Âge, volume dirigé par Olivier Boulnois. Je renvoie aussi donc à cet autre livre de vous, pleinement et seulement de vous, donc Philippe Capel, Finitude et mystère au CERF, qui date de 2005 et qui est d'une certaine façon une introduction à la suite. Et donc nous aurons bientôt les deux derniers tomes qui nous permettra de mieux comprendre dans la période moderne ce qu'il en est. Philippe Capel, merci beaucoup.